Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi et vous connaissez le principe, c'est la libre antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous appelez où que vous soyez à travers le monde, venez lancer le débat sur l'antenne d'RFI, parlez-nous des sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Je vous cache pas que vous êtes nombreux encore ce matin à souhaiter réagir par exemple à l'accord politique en République démocratique du Congo, beaucoup d'appels également sur la mobilisation de l'opposition en Côte d'Ivoire qui appelle même à boycotter le référendum concernant le projet de nouvelle constitution, les grèves à répétition au Tchad suscitent également des appels et des réactions au standard, le remaniement gouvernemental au Niger, voilà un sujet aussi qui ne manque pas de vous intéresser, bref, tous les sujets nous intéressent, vous êtes les bienvenus sur notre antenne, 33 9 693 693 70, vous nous appelez, on prend rapidement vos coordonnées et l'équipe évidemment vous recontacte dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, eh bien vous nous appelez et on se fait un plaisir évidemment de vous décrypter davantage tous les sujets qui vous passionnent. On va commencer avec Faza qui nous appelle de Conakry, il est en Guinée. Bonjour Faza.
Bonjour Angomège, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Nous vous écoutons.
Oh, le président Hollande a fait publier un décret pour réduire les privilèges des anciens chefs d'État français. Quels sont ces privilèges et quelle est la réaction de ces anciens présidents?
Ah, bonne question. C'est vrai que c'est en toute discrétion qu'un décret publié au journal officiel réduit les privilèges, les avantages des anciens présidents de la République. Bonjour Anicel Jabré.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service politique d'RFI. Alors, ils sont trois, trois anciens présidents, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. François Hollande a donc décidé de raboter certains avantages. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que cette question des privilèges des ex-présidents, c'est quand même un serpent de mer.
Ah oui, la question est régulièrement soulevée, notamment par des associations qui régulièrement déposaient des recours. Du coup, après un énième recours, c'était il y a deux, trois ans environ, 2014 exactement, François Hollande a demandé un rapport à la Cour des comptes, au Conseil d'État. C'est ces institutions qu'on consulte dans ces cas-là. Il leur a demandé d'estimer le montant précis de tous ces avantages en nature et puis surtout de proposer des pistes de réduction. L'Élysée en a retenu l'essentiel de ces pistes. Alors, les ex-présidents, ces trois dont on parlait, peut-être des futurs, vont continuer de percevoir ce qu'ils avaient aujourd'hui, donc leur dotation, 65 000 euros brut par an, un appartement de fonction, mais ce sont leurs moyens qui vont être réduits et rationalisés. Ils avaient jusqu'ici 7 collaborateurs permanents, oui. Ça va passer à 3.
Alors 7 collaborateurs, il y a encore un directeur de cabinet, un fonctionnaire de la catégorie A, c'est la catégorie la plus élevée, un employé des archives nationales, 2 secrétaires particuliers et 3 secrétaires dactylo. Voilà pour les 7 collaborateurs.
Voilà, désormais. C'est 3. Donc 3. Mmh. Il va falloir les répartir en fonction de ce que le président lui-même, l'ex-président, jugera utile. Il va garder tout ce personnel. Il garde, bien sûr, sa protection rapprochée. Ça, c'est d'ailleurs l'essentiel des dépenses, mais évidemment pas question d'y toucher.
2 policiers, il me semble.
Deux policiers, minimum. Mmh. Minimum, parce qu'on ajuste aussi en fonction des menaces. Mmh. Ça, c'est évidemment pas toujours public. En revanche, il faut dire au revoir aussi aux voitures de fonction avec 2 chauffeurs, aux billets d'avion et train gratuits et en première classe. Bon, vous savez, ces économies, en fait, c'est relativement symbolique parce que quand les deux institutions dont je vous parlais, la Cour des comptes et le Conseil d'État, ont fait ce rapport, ils ont sorti leurs calculettes. Mmh. Le total des dépenses pour les anciens présidents, c'est 10 300 000 euros d'argent public. Comme ça a l'air beaucoup. Mais en fait, vous savez, c'est une goutte d'eau sur le budget de l'État. 350 milliards d'euros par an. Donc, voilà.
C'est une goutte d'eau, mais en même temps, j'imagine que si François Hollande publie ce décret au journal officiel à 7 mois de l'élection présidentielle, il a forcément des arrière-pensées électorales.
Alors évidemment, on va nous répondre que non. La question, d'ailleurs, on l'a posée au porte-parole du gouvernement. Alors il y a 2 raisons. Il y a un contexte global, défiance très forte, de plus en plus forte. Elle n'a cessé d'augmenter pendant le quinquennat de François Hollande vis-à-vis de la classe politique. Demande d'exemplarité. Et puis, c'est vrai, à 7 mois de la présidentielle, une mesure qui est forcément populaire, ah oui. C'est toujours bien. C'est aussi beaucoup plus facile à mettre en œuvre que, par exemple, cette fameuse courbe du chômage que le président de la République a proposé d'inverser. Ça permet aussi au président, et ça fait pas de mal, de pouvoir, dans la foulée, faire rappeler que lui, quand il est arrivé au pouvoir, à l'Élysée, eh bien, il a fait baisser son indemnité, celle de son Premier ministre, celle de tout le gouvernement, de 30%. Bon, je vous rassure, si jamais ça vous inquiétait, le président touche quand même 14 910 euros bruts, j'y arrive, par mois.
Par mois, et le Premier ministre, un peu moins de 13 000 euros net, lui, en revanche. Il faut quand même préciser que ces réductions des avantages, elles n'est pas immédiate. Il va falloir encore attendre 5 ans, je crois. Elles entreront en vigueur dans 5 ans.
L'idée, c'était de le mettre en œuvre progressivement, de ne pas réduire tout ça brutalement. En tout cas, François Hollande, lui, l'a promis. Si jamais il n'est pas réélu, ça s'appliquera à lui dès la fin de son mandat.
Merci beaucoup Anissa El Jabri d'être venue répondre à Faza qui était en ligne de Conakry. Il est 10h16 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. On va parler de l'Inde avec Fayala. Bonjour Fayala.
Bonjour Juan, bonjour à Sébastien Farsi et à tous les auditeurs qui sont pendus à vos lèvres à cette heure-ci.
Alors Sébastien Farsi, notre correspondant en Inde, effectivement, mais ce n'est pas lui qui est au bout du fil ce matin. voilà, mais enfin, vous allez voir. On connaît votre question puisque vous nous avez appelé évidemment avant-hier, et c'est un bon expert qui va vous répondre, même si ce n'est pas Sébastien Farsi. On vous écoute, Fayala.
Ok. L'Inde a signé des contrats de défense et d'énergie à plusieurs milliards de dollars avec la Russie, alors qu'elle avait déjà signé des contrats de rafale avec la France en ce mois dernier. J'ai des préoccupations, Juan. Pourquoi l'Inde accélère l'achat des armements en ce moment?
Ah, comment expliquer cette course à l'armement? Bonne question. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour Juan Gomez.
Spécialiste de l'économie indienne, conseiller au club CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale pour les pays émergents. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Ces accords signés il y a quelques jours portent notamment sur des frégates, des hélicoptères militaires, des systèmes de défense antiaérien. Pourquoi l'Inde cherche-t-elle absolument à renforcer sa défense?
Oui, on a eu un feu d'artifice d'accords avec la Russie en particulier, et dans tous les domaines, absolument tous les domaines, vous les avez cités. On peut citer également la recherche commune pour les chasseurs de cinquième génération, 2 sous-marins nucléaires, 4 frégates, et bien sûr la question des avions qui se pose, puisque d'un côté et l'accord avec la France est conclu sur les Rafales, et c'est là-dessus que je voudrais rebondir. L'Inde est le premier acheteur mondial d'armement. Et son problème numéro un, c'est bien sûr de les fabriquer. Et le problème numéro deux, c'est pourquoi elle a besoin autant de moyens militaires. Alors je vais commencer par la deuxième. Si vous regardez une carte du monde, vous apercevez que l'environnement de l'Inde n'est pas facile. Il y a non seulement l'ennemi traditionnel, le Pakistan, qui lui-même est extrêmement bien doté militairement et il a des accords de construction de chasseurs en particulier avec la Chine. Il y a la Chine, oui. La Chine qui est avec l'Inde dans les BRICS en coopération économique, mais qui évidemment a un souci de parité avec la superpuissance chinoise qui monte. Donc c'est un grand sujet et qui explique que sur le plan aérien, l'Inde a vraiment besoin des matériels les plus modernes. Et puis troisièmement, dans la région, il y a l'océan Indien que l'Inde considère comme étant l'océan de l'Inde et qui le rend absolument nécessaire la modernisation de la flotte indienne.
Donc l'Inde L'Inde veut protéger ses frontières.
On est exactement dans cette problématique-là, qui est celle non pas d'une course aux armements offensifs, mais dans l'optique de maintenir en permanence la parité militaire. Et de ce point de vue-là, l'Inde a plutôt effectivement du retard. Alors son souci numéro un, c'est pas seulement cela, c'est produire elle-même ses armements. Et l'échec relatif de l'accord avec les Rafales, si vous vous rappelez bien, c'est qu'au départ, on parlait de 126 Rafales construit en réalité en Inde avec des transferts de technologies importants. Cet accord a échoué, ce qui explique très largement que la coopération avec la Russie prenne énormément d'ampleur, car tous les accords qui ont été signés, il y en a 8 au total en un mois, ça fait beaucoup, tous ces accords prévoient des coproductions. L'accord, je dirais, exemplaire, c'est celui des fameux hélicoptères 200KA, où là, ça va être fabriqué en Inde en totalité, 140 exemplaires pour l'Inde et 60 pour la Russie. C'est-à-dire que la Russie, par rapport à la France, n'hésite pas à faire en réalité des transferts non seulement de technologie, mais de production.
Donc on comprend bien, un, protéger les frontières, et deux, on achète des armements pour, à terme, bâtir sa propre industrie de défense, être capable de construire elle-même son armement réduire évidemment sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Joseph Boileau. Je renvoie nos auditeurs à votre dernier ouvrage, L'économie de l'Inde, paru aux éditions La Découverte. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent aux relations entre la Chine, l'Afrique et l'Inde, Chine d'Afrique, un livre passionnant, j'ai lu il y a 2 ans maintenant, il me semble, sur ces relations entre les trois continents. Bonne journée à vous, Jean-Joseph Boileau. Merci, Fayala. Bonne journée. Il est 10h22 à Paris. On accueille El Jefe, le chef du service des sports, RFI. Bonjour, Alejandro Valente.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Des questions sur Lionel Messi. Privat de Dieu nous appelle d'Abidjan. Il est exactement à Cocody. Bonjour, Privat de Dieu.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs RFI. Et bonjour à toute la population de Bayiri.
Très bien.
Selon certaines sources, Lionel Messi aurait demandé à son entraîneur de l'équipe nationale de l'Argentine de ne pas sélectionner Mauro Icardi, qui a pourtant fait un bon début de saison. Et face à cette nouvelle, j'ai 2 préoccupations. Quelles sont les raisons qui poussent Lionel Messi à ne pas jouer avec Icardi? Et la deuxième préoccupation, pourquoi l'entraîneur accepterait-il la proposition de Messi?
Alors, faut-il croire les rumeurs, Alejandro Valente? En tout cas, il se dit que Lionel Messi fait pression sur le sélectionneur de l'équipe argentine pour écarter certains joueurs. Notre auditeur parlait à l'instant de Mauro Icardi. Effectivement, c'est lui que son nom revient de plus en plus dans les débats, en tout cas à la radio-télévision argentine. Que se passe-t-il?
Non, à ma connaissance, Messi n'a émis aucun veto sur Mauro Icardi ni sur d'autres joueurs. C'est pas vraiment le style de Messi, mais en tout cas, dans le cas de Mauro Icardi, c'est certainement pas le cas.
Pourtant, c'est pas la première fois qu'on dit que Messi fait pression pour que certains joueurs n'évoluent pas dans la sélection. Tout le monde pense en Argentine, en tout cas, à Carlos Tevez, par exemple, il y a 4-5 ans.
Pourtant, ils ont joué ensemble plusieurs fois. Après, c'est les entraîneurs qui choisissent les joueurs, de toute façon. Évidemment, quand vous avez Messi dans votre équipe, vous cherchez les joueurs qui soient le plus compatibles avec Messi, le plus aptes à jouer avec lui, à produire avec lui. Mauro Icardi a d'autres soucis qui font qu'il va pas à une équipe d'Argentine, essentiellement liés à sa vie privée. Hein, vous savez que c'est un jeune joueur de l'Inter de Milan qui a beaucoup de talent. Mais qui a une vie privée, qui s'étale dans les réseaux sociaux. C'est une sorte de Kim Kardashian avec lui et sa femme Wanda Nara. Donc, sont souvent présents dans les réseaux sociaux. Et beaucoup de joueurs ne l'aiment pas, même s'ils le disent pas ouvertement. Ils le considèrent un peu un traître, car son épouse était la femme d'un ancien coéquipier. Maxi Lopez, et donc...
Et on sait que Maxi Lopez est quand même très proche de Lionel Messi.
Oui, oui.
D'où les rumeurs en disant,
oui,
bah Messi...
Bon, on peut dire des rumeurs. Moi, j'ai jamais entendu Messi parler d'Icardi. Et en général, les joueurs n'aiment pas parler de lui. On a vu Diego Maradona, l'ancien star de l'équipe d'Argentine, était en Italie ces jours-ci. Et on lui posait des questions sur Icardi. Et il disait, moi, je parle pas d'un traître. Bon, l'idée, la traître, c'est il évoque une loi non écrite dans les vestiaires qui dit qu'on ne touche pas à la femme d'un coéquipier.
On ne pique pas la copine d'un coéquipier.
Exactement.
Voilà.
Bon, c'est un peu machiste, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas appelé. En tout cas, l'ancien sélectionneur argentin Tata Martino avait dit que son exposition médiatique lui posait un problème et qu'il trouve que ça peut créer des soucis d'ambiance dans l'équipe.
En tout cas, vu les mauvais résultats de l'équipe argentine dans la phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, Icardi ferait du bien quand même.
Pas sûr. Bon. Enfin, c'est un bon attaquant, mais il y a d'autres bons attaquants. Il y a Higuain, il y a Agüero. Il faudra en écarter certains parce qu'on ne peut pas mettre que des attaquants dans une équipe. Et donc, je pense qu'en plus, ces récents problèmes avec les supporters ultra de l'Inter n'ont pas servi sa cause.
Merci beaucoup, Alejandro Valente, chef du service des sports des RFI. Priva de Dieu, bonne journée à Abidjan où il est 8h25. Il nous reste donc encore 4 minutes 30 pour être précis. On va s'intéresser au vrai faux procès Monsanto, un procès citoyen qui s'est tenu le week-end dernier à La Haye, en Suisse. Bonjour Mohamed.
Bonjour Ron Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Ouagadougou, au Burkina Faso.
Oui, de Ouagadougou. Samedi dernier s'est tenu à La Haye, aux Pays-Bas, le tribunal citoyen pour mettre la lumière sur les activités de Monsanto. Plusieurs ONG et associations, dont le collectif citoyen pour l'agroécologie au Burkina Faso, ont témoigné des dégâts qu'a causé Monsanto dans leur pays. Alors Ron, quel est l'intérêt de ce tribunal si Monsanto ne sera pas jugé?
Alors, effectivement, c'est un procès citoyen, un procès symbolique. Valérie Cabanne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du comité fondateur de ce tribunal Monsanto. Je précise que vous êtes juriste en droit international spécialisé dans les droits de l'homme. Vous étiez le week-end dernier à La Haye. En quelques mots, expliquez-nous ce qui s'est passé durant deux jours. Il y a eu des témoins, des experts qui sont venus du monde entier?
Oui, effectivement, c'est un tribunal qui avait une vocation pédagogique et surtout qui permettait à des victimes qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui n'ont pas les moyens d'attaquer Monsanto de pouvoir exprimer leur détresse. Donc on avait des personnes d'Argentine, du Sri Lanka, du Danemark, d'Australie, du Burkina Faso, de l'Inde, du Bangladesh, du Canada, de Colombie. Toutes ces personnes sont venues témoigner de violations des droits de l'homme, du droit à l'alimentation, du droit à l'eau, du droit à la santé, et surtout démontrer face à un jury composé de 5 juges de réputation internationale, dont la présidente Françoise Tulkens, qui est l'ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, que le droit n'est pas, à l'heure actuelle, outillé pour s'attaquer à des multinationales, et donc, effectivement, leur demander leur avis et jouer de leur influence pour pouvoir faire évoluer le droit international de façon à ce que les victimes, ou en tout cas les personnes qui se considèrent victimes, puissent ester en justice.
Oui, parce que le procès qui s'est déroulé le week-end dernier est symbolique, mais l'idée c'est qu'à terme, il y ait des actions judiciaires bien réelles, et notamment devant la Cour pénale internationale.
Exactement. Donc ça, c'est effectivement le combat du mouvement que je représente, qui s'appelle End Ecocide on Earth, et qui milite pour que un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine soit reconnu par la Cour pénale internationale, qui s'appellerait le crime d'écocide, c'est-à-dire le fait de détruire l'écosystème Terre.
Écocide. Non, je le répète parce que c'est un mot nouveau, donc pour que les auditeurs le mémorisent.
Absolument. Oui, écocide. C'est un mot nouveau, en tout cas, chez les francophones, parce que c'est dans le débat public depuis 50 ans, depuis l'usage de l'agent orange par l'armée américaine au Vietnam. Mais l'idée, c'est véritablement de reconnaître que si l'on détruit les conditions de la vie sur Terre, si l'on pollue trop les sols, si l'on pollue trop l'air, si l'on s'engage dans un changement climatique irréversible, on crée des conditions d'existence qui vont devenir extrêmement difficiles pour la plupart des personnes, les plus vulnérables en particulier. Et donc, il faut pouvoir contrôler l'activité industrielle et créer des règles contraignantes supranationales pour ces activités. Donc on a demandé au juge, pendant le tribunal international contre Monsanto, après avoir fait une plaidoirie sur le crime d'écocide qui a été menée par Kofi Dogbevi, un de mes collègues, ce qu'ils en pensaient, et la juge, Françoise Tulkens, a officiellement clôturé le tribunal en reconnaissant qu'il y avait effectivement un véritable besoin aujourd'hui de reconnaître ce crime d'écocide pour protéger les générations futures, et elle s'est engagée à faire des recommandations auprès des Nations Unies.
Et on attend les recommandations courant décembre, il me semble. Ce sera donc un avis consultatif. La portée de ce procès, eh bien, on verra ce que ça donnera dans les prochains mois. Merci beaucoup Valérie Cabanne d'avoir été avec nous. Mohamed, bonne journée à Ouagadougou. La Libre Antenne se poursuit juste après le journal. On vous donnera la parole pour commenter l'actualité. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent. Priorité.